5h sur Europe 1.
On revit des moments comme ça, après tant de moments difficiles, et on est obligé de se lâcher. C'est la joie de vivre, tout simplement.
La joie de gagner aussi face à l'Allemagne, 1-0. Mais le match était clairement à l'avantage des Bleus. Récit d'une soirée de fête sur le Vieux-Port à Marseille. La vaccination, encore un peu plus souple. On pourra recevoir sa deuxième dose de Pfizer ou de Moderna, 3 semaines après la première désormais. Et puis après 2 mois enfermés dans la station spatiale, Thomas Pesquet va se dérouiller le scaphandre. Longue sortie prévue aujourd'hui pour installer de nouveaux panneaux solaires.
Le journal des sports à suivre, notre pressing du matin et puis nous serons avec notre agriculteur dans l'aube pour les doigts dans l'assiette.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Quoi de mieux que de commencer par une victoire 1-0, mais que le match fut frustrant. 2 buts français refusés pour hors-jeu, des fautes allemandes non sifflées. Retenons tout de même que les Bleus ont battu l'Allemagne et entament donc, on ne peut mieux, 7 euros de football. Atmosphère libérée, par exemple à Marseille, Stéphane Frangy.
Comme à la belle époque, les supporters retrouvent très vite leurs sensations. 20 minutes de jeu, but français, le Vieux-Port s'embrase.
J'ai plus de voix, ça y est.
C'est le début de l'Euro et je pense que ça annonce les couleurs. Hein. Magnifique, ah, le sourire jusqu'au bout.
Même scène de liesse au coup de sifflet final pour des spectateurs déchaînés.
Ah, obligé, quand on revit des moments comme ça, après tant de moments difficiles, et on est obligé de se lâcher. C'est la joie de vivre, tout simplement. Les gens, ils chantent, on est tous ensemble, on vit et on est pour notre pays. Il y a eu le Covid, maintenant, l'Euro pour nous sortir de ça.
Car derrière cette joie, il y a un peu plus que la victoire de l'équipe de France.
On s'est trop amusé, on a gagné, c'est la meilleure soirée de ma vie. C'était trop bien, parce que c'était convivial, tout le monde s'aime. On ressort, il y a tout le monde et tout, on passe un bon moment.
Et tandis que les serveurs entament une course contre la montre pour replier au plus vite leur terrasse, les supporters jouent les prolongations après 23 heures avec des haies d'honneur pour les voitures quittant le Vieux-Port. Le couvre-feu atteindra. Marseille, Stéphane Frangy, Europe 1.
Voilà pour l'ambiance sur le Vieux-Port à l'Arena Munich où se jouait la rencontre. On retient aussi ce qui s'est passé au tout début du match. Une action de Greenpeace contre le pétrole.
Oui, un parapente motorisé qui pénètre dans le stade par les airs. Sauf que tout ne s'est pas passé comme prévu, comme le reconnaît l'association elle-même. Jean-François Pérez, l'un des envoyés spéciaux d'Europe 1.
Il était 20h58 quand le drame a failli se produire. Les supporters étaient en train de chanter, les joueurs sur la pelouse, prêts à donner le coup d'envoi. Personne ou presque n'a prêté attention à ce drôle d'engin qui semblait, comme cela arrive souvent en football, descendre du ciel pour apporter le ballon du match. L'ULM en question a heurté un câble tendu sur le toit du stade. Il a tangué dangereusement, frôlant les tribunes basses sur plusieurs dizaines de mètres avant de terminer sa course folle sur la pelouse près de la ligne de touche. Pendant que les premiers secours s'affairaient, on a pu voir le message inscrit sur le parachute. Un message de Greenpeace, à bas le pétrole. Au final, au moins 2 blessés légers, un technicien et un officiel. Greenpeace se dit désolé, l'UEFA déplore un acte inconsidéré. Le militant de l'ONG a été arrêté dans la foulée par la police allemande. La question de la sécurité dans les stades est une nouvelle fois posée. Munich, Jean-François Pérez, Europe 1.
Le journal des sports à suivre dans quelques minutes, juste après le journal. On reviendra bien sûr sur ce match et à 6h40 donc avec notre consultante Aline Riera. Il est 5h04 sur Europe 1. On en vient à la vaccination contre le Covid. Nouvel assouplissement des règles.
Oui, cela concerne ceux qui reçoivent le vaccin de Pfizer ou celui de Moderna. On peut désormais avoir sa deuxième dose 3 semaines seulement après la première. C'est le nouveau délai minimum annoncé hier. Anne Le Gall, cet assouplissement ne modifie en rien l'efficacité du vaccin.
Exactement, car ce délai allant de 21 à 49 jours entre 2 doses est prévu dans l'autorisation de mise sur le marché pour ces 2 vaccins à ARN messager. Alors il est vrai qu'au départ, ce délai avait été fixé à 6 semaines pour permettre un maximum de première injection dans un contexte de livraison au compte-gouttes. Mais désormais, les vaccins affluent. 23 millions de doses, essentiellement Pfizer et Moderna, doivent être livrées en juin. C'est 2 fois plus qu'en avril. Et ce sera la même chose en juillet et en août. Alors, pour que l'organisation des vacances ne freine pas la prise de rendez-vous, le ministre de la Santé a décidé d'assouplir les règles. La deuxième injection doit toujours se faire au même endroit que la première, mais il pourra s'écouler entre 3 et 7 semaines, donc entre les 2 rendez-vous. Cette nouveauté est prise en compte sur les plateformes de rendez-vous à compter de ce mercredi matin. Et l'objectif, c'est aussi d'accélérer les deuxièmes injections face à la menace des variants, car on sait qu'avec 2 doses, les vaccins à ARN messager restent efficaces à plus de 85% contre le variant Delta. Delta, notamment ce variant indien qui est devenu majoritaire en Angleterre.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. En bref, on signale ce rappel de glace et de crème glacée. Il est à vérifier sur rappel.conso.gouv.fr. Certains produits de marque Carrefour et Auchan contiennent de l'oxyde d'éthylène. C'est un produit classé cancérogène qui est interdit dans l'Union européenne.
Un projet de loi sur la protection de l'enfance. Il est présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. On apprend à cette occasion que plus d'un tiers des parents ignorent ce que sont les violences éducatives ordinaires.
Oui, c'est le résultat d'une enquête que nous vous révélons en exclusivité, réalisée par le site de référence Mpedia. Et alors qu'il s'agisse d'une gifle ou bien de chantage, de moquerie, d'insultes, ces violences ordinaires peuvent avoir de graves conséquences, Virginie Riva, sur le développement de l'enfant.
Oui, et la loi depuis 2019 est pourtant claire, l'autorité parentale s'exerce sans violence. Mais beaucoup de parents ignorent encore que mettre son enfant au piquet sans aucune explication, ou bien le bousculer, le rabaisser, ce sont des violences éducatives ordinaires. Répétées, elles nuisent à l'estime de soi, les neurosciences l'ont même prouvé, les neurones qui développent la confiance en soi, la sérénité sont détruites dans ces conditions. Tout l'enjeu, c'est donc de réussir à être ferme mais bienveillante dans son éducation. Catherine Saligné, pédiatre, a un conseil.
Les parents doivent avoir confiance en eux, c'est-à-dire que non, tu ne me lâcheras pas la main dans la rue parce que c'est dangereux. Et non, moi ta mère, moi ton père, je te dis non et tu ne le feras pas. Et si c'est dit calmement, gentiment, l'enfant va le respecter. Il n'y a pas besoin de crier, de hurler.
Être parent, ça s'apprend, poursuit Catherine Saligné. On peut même se faire aider, demander conseil lorsqu'on n'y parvient pas sans violence. L'une des manières d'y parvenir, c'est aussi de se recentrer sur le rythme de l'enfant en réalisant, par exemple, le nombre de fois où l'on dit à son enfant « attends » ou bien « dépêche-toi » dans une seule et même journée.
Virginie Riva, la spécialiste éducation d'Europe 1.
On l'avait presque oublié, Thomas Pesquet, dans sa station spatiale internationale. Il y est depuis 2 mois maintenant. Et aujourd'hui, il va faire une sortie dans l'espace.
Oui, il en avait fait 2 lors de sa première mission, c'était dans 2017. Cette fois, il s'agit d'installer des nouveaux panneaux solaires et il aura bien besoin de son scaphandre, Thomas Pesquet, vu les conditions extrêmes que représente ce genre de sortie lors d'Autriche.
Oui, affronter le vide spatial, c'est être confronté à des conditions extrêmes de température, 150 degrés face au soleil et moins 100 degrés dans l'ombre. Pendant les 6 heures qu'il passera dans le vide, Thomas Pesquet ne pourra pas s'alimenter, mais un petit tube à l'intérieur de son scaphandre lui permettra de boire 1,5 litre d'eau. Chaque mouvement dans cette situation est difficile et augmente la fatigue, explique Hervé Stévenin, spécialiste de ce sujet à l'Agence spatiale européenne.
Du fait que l'astronaute est engoncé dans un scaphandre, la dextérité est perdue, les mouvements sont limités. Avec un casque qui a une visibilité limitée, on ne voit pas grand-chose. Et là-dedans, il faut quand même se souvenir d'où on vient, où on va, où sont les outils qui flottent autour, où est mon partenaire, où est ma zone de travail. Est-ce que tout ce que je transporte est bien attaché? Parce que si un outil est perdu, la mission est terminée et il faut qu'il rentre.
Après une telle mission, les astronautes perdent en général 4-5 kilos. Les nouveaux panneaux solaires que Thomas Pesquet et son collègue doivent installer sont enroulés, font près de 20 mètres de long et il faudra les déployer. Tout cela, les jambes dans le vide et la Terre en dessous à 400 km.
4 kilos perdus en une journée de travail,
hein.
C'est le régime le plus efficace après les pizzas et les boissons que vous avez consommées hier soir.
Alors, le récit de l'heure d'Autriche pour les précisions et le journal de François Geffrier, 5h09 sur Europe 1.
Bonjour Léon Trigné.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports et on revient donc sur cette première victoire pour les Bleus à l'Euro.
Et le but, et le but, et le but pour l'équipe de France. Le but contre son camp de Matsoumas.
Que vous avez vécu en direct sur Europe 1 hier soir. 20e minute de jeu et l'ouverture du score. Dommels, donc ce joueur même qui avait éliminé l'équipe de France en quart de finale de la Coupe du Monde en 2014. Un choc des titans. Hier soir, une bagarre sur le terrain de chaque instant. Il ne fallait surtout pas baisser la garde, comme nous l'explique Adrien Rabiot.
On savait qu'on était attendu et on sait que c'est ça qui fera notre force. Ce soir, on l'a démontré dans un match où on a souffert aussi par moments. Voilà, cette solidité mentale et collective, on était vraiment très fiers après ce match d'avoir répondu présent de cette manière. Tout le monde a joué avant nous, il fallait être là ce soir, montrer, envoyer aussi un message. qu'on n'était pas champion du monde pour rien et qu'il faudra compter avec nous.
Adrien Rabiot avec Jean-François Pérez.
Voilà, et Antoine Griezmann, tiens, pour la petite histoire, en ce moment-là, est en train de tweeter. Visiblement, il n'a pas réussi
à
beaucoup
dormir.
Il est en train de regarder la NBA, les matchs de basket américains. Alors, ça a été un match rugueux. Il faut dire que les Allemands avaient donné le ton. Hein.
Ils avaient annoncé qu'ils joueraient, je cite, « sale » et ça n'a pas raté. Hein. On a vu Pavard complètement sonner après un choc. On a vu un crampon atterrir dans la mâchoire d'Hernandez. Les Bleus ont souffert, mais ils n'ont pas paniqué, pas fait de faute non plus. Pour le prochain match face à la Hongrie, il faudra faire preuve du même état d'esprit. Avec quelques petits détails à peaufiner, c'est l'avis en tout cas de notre consultante Aline Riera.
Je trouve que les Français n'ont pas été toujours parfaits dans la maîtrise du ballon, dans l'utilisation du ballon, et qu'on sent qu'il y a une marge de progression. Mais quand il s'agit de mettre le bleu de chauffe, c'est le cas de le dire, ils ont répondu présent, ils ont répondu physiquement parce qu'ils se sont fait agresser plusieurs fois. Il y a l'agression de Goussen sur Pavard, qui est juste inadmissible qu'il ne soit pas au moins averti. Mais ils ont relevé la tête, ils ont accepté le combat par moment parce que c'était un vrai combat. Et franchement, chapeau, parce que la victoire est méritée et il y a encore une belle marge de progression.
Aline Riera, notre consultante. En tout cas, c'est une bonne entrée en matière car la France est dans un groupe très relevé. Elle partage la tête du groupe avec le Portugal qui a battu la Hongrie 3-0. La Hongrie que la France affronte samedi.
Le chiffre du jour, c'est 78.
Comme le nombre de ballons touchés par Paul Pogba, magistral hier soir. Il a également gagné 13 de ses 20 duels. Giroud nous analysera son match d'ailleurs dans notre prochaine édition. Il a adoré sa prestation.
Merci. Léna Hickmoni, à tout à l'heure, 5h11. Et il nous reste à découvrir le pari gagnant du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Sébastien. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Et mon pari gagnant sera le 201 Nirlit. Ce poulain bien né, à peine âgé de 2 ans, n'a pas raté ses premiers pas en compétition le 18 mai sur cet hippodrome de Saint-Cloud en s'imposant quasiment de bout en bout. Visiblement mature et travaillant de mieux en mieux le matin à l'entraînement, il devrait pouvoir cet après-midi conserver son invincibilité avant d'affronter cet été les meilleurs de sa génération. Alors notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 1, Nirlit.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour vos pronostics du Quintet. À tout à l'heure. Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 au réveil, il est 5h12 et nous prenons le temps chaque matin d'ouvrir les journaux avec toute l'équipe du 5-7. C'est le pressing à suivre. Avec vous, Omblin, qu'est-ce que vous avez lu ?
Les villes moyennes avaient tendance à se vider au profit des métropoles. Ça, c'était avant la crise sanitaire, la revanche des villes à taille humaine, un exode urbain qui réveille les campagnes.
Et puis moi, je vous raconterai un nouvel effet du déconfinement. Ça y est, les grands salons reprennent Paris, Porte de Versailles, dès cette semaine, avec des conditions évidemment très particulières. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, Sébastien Krebs.
5h13 sur Europe 1, ce sera l'image du jour à 13h tout à l'heure. La rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden à Genève. Dernière étape de la tournée du président américain en Europe et son tout premier tête-à-tête avec le dirigeant russe. 4 à 5 heures de discussion sont prévues sur l'Ukraine, la Biélorussie ou encore les cyberattaques. Moins de 2000 malades du Covid sont désormais en réanimation dans les hôpitaux français selon les tout derniers chiffres. La tendance est toujours bonne. Par ailleurs, le délai minimum entre deux doses de vaccin Pfizer ou Moderna est désormais de 3 semaines seulement. Et puis Rémi Daillé doit finalement arriver à Paris ce matin après un voyage plus long que prévu depuis son expulsion de Malaisie. Cet ancien cadre local du Modem est soupçonné de complicité dans l'enlèvement de la petite Mia. C'était il y a 2 mois dans les Vosges. Il sera arrêté dès son arrivée sur le territoire français.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing du jour avec Omblin Roche et Martin Lange. On commence par un coup d'œil aux unes de vos journaux. Et comme en 18, c'est le titre de l'équipe ce matin, comme en 2018, bien sûr, l'année où la France a été championne du monde. À la fin, c'est la France qui gagne. Ça, c'est le titre du Parisien aujourd'hui en France, qui change le dicton bien connu. Ce n'est pas l'Allemagne cette fois-ci qui a gagné. Les sourires des Bleus sont partout, à la une de Ouest-France, de la Dépêche du Midi. Ça commence fort. Il y a un titre, le journal toulousain, tout comme le Dauphiné Libéré. La force bleue dans la République du Centre et dans la montagne. Et pour le courrier Picard, des Bleus qui ont réussi leur entrée. Les patrons sont de retour, écrit Nice Matin. Ils sont au rendez-vous pour le Télégramme et c'est du solide. Voilà ce que titre le Progrès de Lyon, une entame parfaite pour l'Alsace. Et puis, autre titre ce matin, vos journaux s'intéressent aussi à la rencontre entre Vladimir Poutine et Joe Biden. Je vous en parlais, première rencontre sous haute tension, c'est la une du Figaro. Comment on se retrouve ? Ça, c'est le titre de Libération. Et voici les trois histoires qui ont attiré notre attention ce matin, enfin en dehors de toutes celles qui concernent les Bleus aujourd'hui. On va parler d'autre chose que de foot, avec d'abord Ambline, cette envie de campagne.
Oui, les métropoles n'ont plus le monopole, alors elle n'est pas de moi, hein. C'est signé de la présidente du réseau Orpi dans le Figaro. Les citadins sont en mal de verdure, d'espace, hein, c'est ce que nous dit le deuxième baromètre de l'immobilier des villes moyennes. Et ça s'explique par ce besoin de plus en plus important de fuir le béton. Depuis le début de la crise sanitaire, vous ajoutez à ça la banalisation du télétravail. Un acheteur sur deux aujourd'hui dit prospecter dans une agglomération de moins de 20 000 habitants. Paris, Lyon, Marseille deviennent des villes de transit où, nous dit la présidente du réseau Orpi, on recherche plus volontiers un pied-à-terre qu'une résidence principale. En gros, vous vivez dans un appartement limitrophe et vous allez travailler un ou deux jours par semaine dans la capitale, exemple. Mmh. Voilà. Donc la zone autour de la ville de Sens est devenue très prisée. Idem autour de Montluçon dans l'Allier et autour de Limoges, le Perche, le Pays d'Auge voient leurs cotes grimper. Certains pourtant dans le passé se demandaient si ces villes moyennes n'étaient pas condamnées au déclin. Mais finalement, il s'est avéré qu'elles possédaient un très bon potentiel démographique aidé par le programme Action Cœur de Ville, lancée par l'État en 2018. Son objectif est de revitaliser les centres-villes, améliorer les conditions de vie des habitants. Alors, par exemple, un espace partagé métier d'art a été créé à Issoire, dans le pays de Dôme, dans le Puy-de-Dôme, où une navette relie désormais le centre-ville de Boulogne-sur-Mer au centre national de la mer. En gros, on ne laisse pas ces villes décliner, on les dynamise. Et voilà, les villes qui sont à taille humaine, une maison avec jardin, et bien ça, c'est le nouvel Eldorado des citadins.
C'est plutôt une bonne nouvelle pour les centres-villes de ces villes moyennes qui avaient tendance à être un peu désertées, avec des magasins qui fermaient, etc. De voir ces populations arriver, notamment des populations de citadins et de franciliens. Je voyais ces quelques chiffres. Dans Lyon, par exemple, le pourcentage d'acheteurs venus d'Île-de-France a progressé de 9 points en un an. Dans Lyon, ça va vous intéresser.
Exactement.
Dans l'heure,
c'est des résidences secondaires. Voilà, il y a un mix de résidences principales et secondaires.
Plus 6 points dans l'heure, plus 6 points aussi dans l'Orne. Voilà, les zones qui sont pas très loin des grandes villes, mais assez proches. On parlera d'immobilier tout à l'heure à 5h40 avec mon invité sur les crédits immobiliers. Les conditions vont se durcir. Autre sujet en attendant, et un nouveau signe que le déconfinement est en marche, c'est le retour des salons, avec aujourd'hui à Paris le tout premier grand rendez-vous dans les halls de la Porte de Versailles. C'est le salon Vivatech, la grand-messe des nouvelles technologies. Un salon à valeur de test, raconte le Parisien, avec les nouvelles règles en vigueur, une jauge à 5000 visiteurs et un salon qui a dû revoir toute son organisation pour même devenir hybride, en partie en présentiel, en partie virtuel, en ligne. Il y a quand même plus d'un millier d'exposants sur place. Et la grande nouveauté, c'est l'application du pass sanitaire qui sera réclamée à l'entrée. Avec l'application Tous Anti-Covid, vous montrez patte blanche avec votre QR code qui prouve que soit vous êtes vacciné, soit vous justifiez d'un test négatif de moins de 48 heures. À l'intérieur, les masques, les gestes barrières, ça on sait. Et un système de renouvellement de l'air qui va tourner à plein régime. Système de comptage aussi très précis des entrées et des sorties pour respecter la jauge. Alors oui, c'est contraignant, disent les organisateurs, mais c'est surtout pour eux le bout du tunnel. Imaginez toutes ces entreprises de l'événementiel qui n'ont eu la possibilité d'organiser, qui n'ont eu aucune possibilité d'organiser le moindre événement depuis maintenant plus d'un an. Et les nouveautés, c'est aussi de pouvoir suivre donc une partie de ce salon à distance. Et ça, disent-ils, ça va s'installer, ça va rester. L'avantage, c'est qu'il n'y aura pas la foule agglutinée dans les allées des salons. Et la journée ouverte au public samedi va être un grand test avant les grands événements de l'été, notamment les festivals. Voilà, le pass sanitaire dans les grands salons, ça commence aujourd'hui, Vivatech à Paris, c'est à lire dans Le Parisien aujourd'hui en France. On aura moins de monde.
Il y aura moins de monde dans les allées, oui.
Enfin, peut-être plus agréable.
Mais ça sera le prochain mois, après ça va petit à petit.
Ça va reprendre.
Oui.
Martin, une histoire assez étonnante encore.
Oui, tout à fait.
Un bonhomme étonnant.
Avec un sosie plutôt inattendu. Hein. Je vous emmène au Pakistan ce matin, à la rencontre du sosie de Donald Trump. Alors ça se passe au nord du pays, hein, dans la ville de Saiwal. Un marchand de glace est considéré comme la compie conforme de l'ancien président américain. Même physique, même mimique et surtout même chevelure blonde platine. Ce surnom de Donald Trump pakistanais date en fait de la visite de l'ancien président en 2017. Tout le monde autour du glacier remarque la ressemblance, hein, la légende locale est née.
un marchand de glace pakistanais, donc surnommé le Donald Trump pakistanais. Ça ne va pas être facile de porter ce surnom dans un pays musulman.
Oui, tout à fait, hein, surtout quand on connaît les saillies anti-musulmanes de l'ancien président américain. Mais Salem, hein, c'est le nom de ce vendeur de glace, préfère en rire, hein, Donald Trump, et ses drôles de manières l'amusent. Ses amis, eux, ont voulu surfer sur cette ressemblance en publiant une vidéo sur les réseaux sociaux. Hein. Écoutez, on entend Salem chanter pendant qu'il vend ses glaces. Alors là, la voix est un peu plus aiguë que celle du vrai Trump. Hein.
Est-ce qu'il chante mieux que Donald Trump?
Je pense qu'il chante mieux que Donald Trump.
Enfin,
On n'a jamais entendu Donald Trump chanter, donc je ne sais pas.
On peut pas comparer.
Et alors, cette vidéo a évidemment fait un carton à commenter dans le monde entier. Trump a déménagé au Pakistan, je vous présente son plus jeune frère. Ou encore Trump après avoir perdu les élections. D'autres internautes ont plutôt été séduits par cette voix envoûtante. Salem chante depuis l'enfance, encouragé par son père pour vendre ses friandises.
Alors, comment s'explique cette ressemblance entre ce marchand de glace pakistanais et Donald Trump? En fait, ça s'explique par une maladie.
Exactement. Hein. Salem est en fait albinos, une maladie génétique qui touche environ une personne sur 20 000 dans le monde et dont le principal symptôme est l'absence de mélanine dans la peau et les cheveux. Ce qui explique cette peau très pâle et cette tignasse blonde, évidemment, assez rare au Pakistan. Donald Trump a un sosie au Pakistan et c'est un marchand de glace. C'est à lire sur le site Slate.
Voilà. Bon, vous allez tweeter avec le hashtag Europe 1, le lien de l'article pour qu'on voit quand même l'image et voit à quoi ressemble ce marchand de glace qui amuse un peu le monde en étant le sosie de Donald Trump. 5h22, merci à tous les deux. Merci. C'était le pressing du jour.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et pour les doigts dans l'assiette, nous sommes dans le département de l'Aube ce matin, près de Troyes. Bonjour Baptiste Gatouillat.
Bonjour Sébastien.
Vous êtes notre agriculteur à Diray-Saint-Pierre. Bienvenue à vous, comment allez-vous ce matin?
Bon bah écoutez, très bien, très très bien.
Bon, qu'est-ce qui vous occupe sur l'exploitation en ces premières journées bien estivales?
Ah bah écoutez, on a profité des beaux jours là pour réaliser un petit peu les fourrages sur l'exploitation, parce que j'ai encore un petit peu de prêt pour faire du foin pour les animaux. Donc voilà, j'ai un collègue qui a besoin de foin, donc voilà, on a fait les foins ensemble et puis bah du coup ça va partir chez lui après. On a tout rentré à l'abri, donc cet hiver il va revenir pour nourrir les bêtes. Donc voilà, on a commencé par faire ça et puis on a aussi commencé à préparer tout le matériel pour les moissons qui vont approcher d'ici 3 semaines à peu près.
3 semaines les moissons, donc quoi, début juillet, ça y est, c'est parti?
Ouais, voilà, c'est ça, début juillet, avec d'habitude depuis ces dernières années c'était un peu en avance, donc on commençait autour du 20 juin, mais là cette année on a retrouvé un rythme normal avec le froid qu'on a eu cet hiver, et du coup là on va attaquer début juillet normalement, si tout va bien.
On en parle un peu tous les jours, mais ce beau soleil, il est plutôt positif pour vous?
Bah pour le moment, oui, on a eu de l'eau, donc là, on peut se permettre d'avoir des grosses chaleurs. Bon, il va pas falloir que ça dure très très longtemps, mais vu le temps qu'il nous annonce, ça devra aller pour les cultures. Voilà, faudra espérer un petit peu d'eau en fin de semaine, sans qu'il y ait de gros orages, et puis ça devra aller.
Ouais, on va voir avec Laurent Cabrol qu'effectivement, la pluie revient. Cela dit, là, ces derniers jours, ça n'a pas dû être évident de travailler... vous qui travaillez dehors dans les champs, travaillez avec ces grosses chaleurs, là, quand on commence à toucher les 30 degrés ou plus, ça ne doit pas être simple.
Ouais. Bah, c'est vrai qu'on en profite pour faire les choses qu'on a à faire dehors le matin, puis l'après-midi. Voilà. Moi, j'ai pris l'habitude d'essayer de faire les choses dans le tracteur avec la climatisation, donc déjà, c'est plus supportable.
Oui.
Donc voilà, c'est l'avantage qu'on peut avoir. Donc voilà, on s'organise différemment.
Mais, et vous
voilà,
commencez plutôt vous commencez plutôt à la fraîche.
Oui. Ouais, c'est ça qui est bien, c'est que les gros travaux dehors, bah, on peut les faire le matin, puis ça va bien, le jour se lève de bonne heure, c'est agréable en ce moment.
Et voilà, et ça vous permet de passer une tête dans le studio d'Europe 1 pour les doigts dans l'assiette avant de partir travailler, puisque le jour va se lever là d'ici... Allez, d'ici une demi-heure, ça y est, ça
oui,
arrive.
Oui, bah là, ça commence, on entend les petits oiseaux qui chantent, tout impeccable, donc la nature est bien réveillée ce matin.
Impeccable. Merci à vous, Baptiste Gatouillat. À très bientôt dans les doigts dans l'assiette pour nous raconter votre quotidien. Voilà, les agriculteurs et les artisans qui nous racontent leur quotidien, leur production. Chaque matin, depuis le début de la saison, on aura tout suivi. Hein, des semis jusqu'à quasiment, on aura la fin de la saison, on aura peut-être le début des moissons. Et vous viendrez nous les raconter, Baptiste. À bientôt sur Europe 1.
Eh ben avec plaisir. Merci, Sébastien.
Bon réveil à tous avec Europe 1. Il est 5h25.
paraît que la terre est plate, que les rêves n'existent pas, que les pingouins s'acclimatent fort bien au nouveau climat. Ils te disent que c'est ta faute si tout s'était un pour toi, mais y a bien des étoiles mortes que je vois briller là-bas.
Julien Doré sur Europe 1 avec Waf, et vous les entendez, ces aboiements de chiens, bah c'est les aboiements de ces deux chiens que Julien Doré a enregistrés chez lui pendant le confinement pour les intégrer à ce titre qui est sur son nouvel album Aimé. 5h28, Laurent Cabrol est avec nous. Laurent, ça y est, hein, c'est la fin des grosses chaleurs.
Bah oui, ça y est, le changement de temps est là, enfin. Pour certains d'entre vous qui ont souffert et qui souffrent encore de la chaleur, eh bien, c'est le bout du tunnel. Avec l'arrivée d'une zone de pluie et donc d'orage par définition, ces orages vont se manifester aujourd'hui sur la Bretagne, la Basse-Normandie, la vallée de la Loire, le Poitou-Charentes, la Vendée, l'Aquitaine, le Béarn et pour d'autres raisons sur les Alpes du Sud. Mais enfin, toute la partie ouest de la France, d'une manière générale, sera sous un temps agité avec bien sûr la baisse des températures tant attendue. Mais cette baisse ne se fera pas tout de suite, elle va s'effectuer dans le courant de l'après-midi en raison de l'arrivée tardive de cette perturbation, de sorte qu'entre-temps, eh bien, les températures auront eu le loisir de grimper. 36 degrés à Cahors cet après-midi, 30 avant des orages qui n'arriveront que dans la nuit, 35 à Paris, 33 à Épinal, 31 à Lille, 28 à Marseille. Bref, vous l'avez compris, le temps change, mais il change lentement.
Laurent Cabrol, merci à vous.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Merci de nous rejoindre sur Europe 1 au réveil. Tout de suite, toute l'information. Un nouveau journal. Bonjour Marion Calais.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Presque 5h30.
Bravo, je suis très fier de l'ensemble du groupe. Tout n'est pas parfait, mais face à un tel adversaire, de se retrouver à la fin du match avec 3 points, c'est une très bonne chose.
Les débuts victorieux de la France dans l'Euro de foot. Les Bleus ont battu l'Allemagne 1-0 dans un match rugueux hier soir. Prochain adversaire, la Hongrie, samedi. C'est un autre genre de face-à-face qui va se tenir aujourd'hui à Genève. Rencontre entre Joe Biden et Vladimir Poutine avec de très nombreux sujets de friction sur la table. Un cri d'alarme aussi dans ce journal, celui d'un scientifique allemand après la plus grande mission scientifique au pôle Nord. Ils redoutent que le réchauffement climatique n'ait atteint un seuil irréversible.
Après le journal, est-ce la fin de l'argent facile? L'État va durcir les règles d'attribution des crédits immobiliers au risque de pénaliser les plus précaires et les primo-accédants. On en parle avec mon invité dans 10 minutes, la porte-parole du courtier meilleurtaux.com, Maëlle Bernier. Soyez les bienvenus sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
C'est un paradoxe heureux. Hier soir, les Bleus n'ont pas marqué, mais ils ont remporté leur premier match de l'Euro 1-0 contre l'Allemagne grâce à un but contre son camp de Mats Hummels.
Cyril de la Morinerie, c'est vous qui nous avez fait vivre ce match hier soir depuis Munich. Une rencontre accrochée hein, dont les Bleus se sont bien sortis.
Oui, les Bleus ont été bousculés par une équipe d'Allemagne portée par 14 000 supporters, mais les Français sont restés appliqués et solidaires face à une Mannschaft très agressive. Le virevoltant Paul Pogba, élu homme du match, a été mordu dans le dos par un défenseur allemand. Quant à Benjamin Pavard, il a reçu un coup de genou qui l'a mis KO, scène ravivant le souvenir de Séville 82 et cette agression d'Harald Schumacher sur Patrick Battiston. Mais les Bleus n'ont pas perdu leur sang-froid, même quand Mbappé et Benzema ont vu leur but refusé pour hors-jeu. Bref, une équipe de France très solide, se félicite le sélectionneur Didier Deschamps.
Tout le monde s'est mis au service du collectif. Il y avait des moments où on a souffert, mais on a souffert ensemble. Donc bravo, je suis très fier de l'ensemble du groupe et ce qu'on a été capable de faire. Tout n'est pas parfait, mais face à un tel adversaire, de se retrouver à la fin du match avec 3 points, c'est une très bonne chose.
Voilà les Bleus parfaitement lancés dans cet Euro. Cet après-midi, ils s'entraîneront à Munich avant de rejoindre dans la soirée Budapest, où ils disputeront samedi leur deuxième match de l'Euro face à la Hongrie, balayé de son côté par le Portugal 3-0.
Avec un doublé de Cristiano Ronaldo qui devient d'ailleurs le meilleur buteur de l'Euro avec 11 réalisations. Par ailleurs, dans le match entre l'Allemagne et la France, un moment de frayeur à quelques minutes du coup d'envoi quand un ULM de Greenpeace a failli s'écraser en tribune après s'être entravé dans un câble. Deux blessés, l'association a présenté ses excuses.
Vont-ils parvenir à l'apaisement après l'avoir traité de tueur? Joe Biden rencontre aujourd'hui Vladimir Poutine.
Tête à tête à la mi-journée au bord du lac Léman, à Genève. Première rencontre entre les présidents russes et américains. Alexis Guillot, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à New York. Et même avant ces échanges, Joe Biden a fixé un certain nombre de lignes rouges.
Oui, avec la volonté de se démarquer de Donald Trump, qui n'a jamais caché son admiration pour Vladimir Poutine. Depuis janvier, Joe Biden réinstaure un rapport de force entre Washington et Moscou. Il le répète, les États-Unis ne cherchent pas le conflit avec la Russie, mais répondront si Moscou continue ses activités nuisibles. Référence à l'ingérence électorale et aux récentes cyberattaques contre des infrastructures américaines menées par des groupes de hackers russes. Les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas, a admis Joe Biden ce week-end, et Vladimir Poutine est un adversaire de taille. Il l'avait même qualifié de tueur il y a 3 mois. Alors un conseiller de la Maison-Blanche a dit s'attendre à une réunion franche et directe entre les deux hommes, au cours de laquelle il sera aussi question des droits de l'homme, notamment la situation de l'opposant Alexei Navalny, actuellement emprisonné. Mais Joe Biden veut surtout obtenir une relation prévisible et stable avec la Russie, car le premier concurrent des États-Unis au XXIe siècle, ce n'est pas Moscou, mais bien Pékin.
Alexis Guillot à New York pour Europe 1. À l'étranger, toujours premiers incidents près d'un mois après l'entrée en vigueur de la trêve au Proche-Orient. Des frappes israéliennes décrétées par le nouveau gouvernement contre des positions du Hamas après des lancers de ballons incendiaires.
À l'heure des promesses et des engagements de neutralité carbone, voilà qui sera peut-être une incitation à aller plus vite et plus loin. Un scientifique allemand assure que le réchauffement climatique pourrait avoir atteint un seuil critique.
Un point de bascule à partir duquel il n'est plus possible de faire marche arrière. Virginie Salmen, vous êtes la spécialiste environnement d'Europe 1. Cette mise en garde, elle ne vient pas de n'importe qui.
Oui, Marcus Rex est le responsable de la plus grande expédition scientifique jamais menée au pôle Nord. Il est rentré avec ses équipes il y a 8 mois et ce qu'il a vu là-bas, les informations qu'il analyse en ce moment, le poussent à nous alerter. Il compare la crise climatique à un champ de mines antipersonnelles. Écoutez.
La disparition de la banquise d'été dans l'Arctique est l'une des premières mines de ce champ de mines. L'un des points de basculement que nous déclenchons en premier quand on pousse le réchauffement trop loin. Et on peut vraiment se demander si nous n'avons pas déjà marché sur cette mine et que que nous n'avons pas déjà sous nos yeux le début de l'explosion en chaîne. Vu l'état de délabrement et l'avancée de la fonte de la glace du pôle Nord pendant l'été 2020, il y a de quoi avoir des doutes.
Des doutes que partage Hans Werner Jacobi, qui a fait partie de cette dernière expédition. Au total, il est allé 12 fois en Arctique.
Je suis d'accord avec cette phrase, surtout avec l'expérience que j'ai dans l'Arctique. On a des doutes si c'est encore possible ou si on est déjà allé trop loin.
Ces hypothèses ne pourront se confirmer ou s'infirmer que d'ici quelques années, peut-être trop tard. Dans le doute, disent-ils, il faut absolument agir pour le climat.
Illustration d'ailleurs de ce climat fou, la quasi-totalité de l'ouest des États-Unis est placée cette semaine en état d'alerte face à de fortes chaleurs. Le thermomètre pourrait atteindre les 50 degrés, faisant craindre le pire, alors que la région est aussi frappée par une importante sécheresse ces dernières semaines.
Il est 5h36 sur Europe 1. Vous en parlez il y a quelques jours, l'inquiétude des associations de consommateurs face aux offres d'électricité à tarification dynamique. Eh bien, Europe 1 vous le révèle aujourd'hui, ces offres vont bientôt être réglementées.
Oui, pour offrir plus de transparence concernant l'évolution des prix, car le principe de ces offres, c'est l'évolution des tarifs en fonction de l'évolution des cours mondiaux. Les explications pour Europe 1 de Maud Descamps.
Premier garde-fou posé, un plafonnement des prix. En cas de tarifs très élevés sur les marchés de l'électricité, votre facture ne pourra pas dépasser deux fois le tarif réglementé, ce qu'on appelle le tarif bleu. Une volonté de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, chargée d'encadrer ces offres, de protéger le consommateur face à la flambée des prix, comme ont pu le connaître par exemple les habitants du Texas il y a quelques semaines. Autre obligation, une transparence absolue sur le contrôle de votre consommation d'électricité. Comme le rappelle le directeur de la CRE, Dominique Jam, avec ses offres, les prix varient d'un jour à l'autre.
Expliquer très clairement dans tous les documents contractuels de l'offre comment le consommateur sera informé la veille pour le lendemain des prix du lendemain, quels sont les risques qu'il court et quelles sont les recommandations sur la façon de piloter sa consommation pour pouvoir profiter de cette offre et ne pas au contraire en être victime.
Les associations de consommateurs et le médiateur de l'énergie avaient réclamé un encadrement plus strict, notamment un plafond de prix plus bas, mais aussi l'interdiction de vendre ces offres par démarchage. La Commission de régulation de l'énergie a estimé que ce serait au législateur d'en décider.
Information Europe 1, signée Maud Descamps. Après la pollution aux hydrocarbures, suite à un probable dégazage, les recours en justice de la collectivité de Corse, plainte pénale et administrative pour obtenir réparation.
Enfin, c'est mercredi, du cinéma dans ce journal. Et le tout connecté est questionné par un film qui sort aujourd'hui.
Oui, ça s'appelle Les deux Alfred. C'est signé Bruno Podalides. Récit et extrait avec Mathieu Charrier pour Europe 1.
Ici à The Box, on fédère, on dispatche, on fixe des OP. D'ailleurs, j'ajoute souvent OP mesurable par simple reacting process.
Alexandre vient de décrocher un job auquel il n'a pas tout compris dans la start-up The Box. C'est Denis Podalides qui incarne ce quinquagénaire qui veut prouver à sa femme que oui, il peut subvenir à ses besoins et s'occuper de ses deux jeunes enfants. Problème, The Box a une règle, éditée par son jeune dirigeant puant.
Ici, c'est No Child. T'as pas d'enfant en bas âge, hein ? Parce qu'ici, quand on a des enfants, on se sert de la boîte. C'est la philosophie de la maison.
Alors Alexandre va devoir cacher l'existence de ses deux enfants, notamment à sa supérieure hiérarchique qui roule en voiture autonome, qu'elle ne maîtrise pas toujours d'ailleurs. Supérieure hiérarchique jouée par Sandrine Kiberlain.
On voit des trottinettes, des casques, des trucs qu'on ne voyait pas il y a encore un an. On est un peu sous le choc et on est très ému de voir aussi les gens quand même réussir à se rencontrer, réussir à se parler, ce qu'il raconte aussi Bruno dans le film.
Les deux Alfred qui est une comédie à la limite du burlesque et qui dénonce l'aberration des enceintes connectées, des livreurs à vélo, des drones, à travers une réalisation volontairement un poil désuète, comme si toutes ces inventions présentent comme moderne, nous ramener finalement à une forme d'asservissement.
J'ai un message de ma voiture. Pourquoi je suis partie me brancher à la borne ? Mais quelle borne ? Quelle est trop conne cette bagnole hein.
Voilà, les deux Alfred de Bruno Podalides qui sort aujourd'hui.
C'était le journal de Marion Calais. Il est 5h39. Et place aux courses, vos pronostics du Quintet, Thierry Léger.
C'est sur l'hippodrome de Saint-Cloud que se disputera ce quintet à handicap qui réunira 14 poulains et pouliches âgés de 3 ans sur la distance de 2000 mètres. Classés respectivement 2e, 4e et 5e d'un quintet similaire le 27 mai à Paris-Longchamp, les numéros 10, Ilo Secret, 11, Bazoc et 9, Wedelsi auront ma préférence. L'assèchement du terrain ne sera certainement pas pour leur déplaire, ni le profil corde à gauche de l'hippodrome de Saint-Cloud. Dès lors, ils méritent tous les trois un très large crédit. On leur opposera les numéros 2 Augustinus et 12 Amour d'argent, qui ont la particularité de rester sur une victoire, mais aussi de débuter dans cette catégorie des handicaps. Dépendant d'entraînement qui n'aiment jamais courir ce genre de course sans avoir une réelle chance, ils peuvent d'emblée s'illustrer. Enfin, les numéros 7 High Lady, 3 Brock et 5 Blackjack du Houlet compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 11, 9, 2, 12, 7, 3 et 5.
Merci à vous Thierry Léger et tous vos pronostics sont sur europe1.fr.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h20 et j'accueille la première invitée du 5-7. On va parler des prix de l'immobilier ce matin. Bonjour Maëlle Bernier.
Bonjour Sébastien.
Bienvenue sur Europe 1, vous êtes la porte-parole du courtier meilleurtaux.com. On va vers des conditions plus contraignantes pour les banques dans l'attribution des crédits immobiliers. Les autorités françaises annoncent que les règles vont se durcir. Dès cet été, il ne sera plus possible d'emprunter au-delà de 35% de ses revenus, assurance comprise, et c'est important. C'était déjà une recommandation, mais les banques dépassaient ce taux ?
Il y avait des dérogations accordées à hauteur de 20%. C'est vrai que le fait d'inclure l'assurance emprunteur dans ces 35% d'endettement a vraiment un impact assez fort, hein, parce que dès que vous avez un problème de santé, dès que vous êtes un peu plus âgé, bah forcément l'assurance coûte plus cher et donc forcément bah, vous avez moins à accorder à la mensualité de crédit.
Ça va donc avoir un impact très fort sur les dossiers que vous suivez aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y en a un certain nombre qui ne passeront plus.
Bah, ça veut dire que de toute façon, les banques, c'était des recommandations, mais c'était déjà en place. Ce qui inquiète un peu plus, c'est qu'on parle maintenant de graver un peu dans le marbre ces recommandations qui deviendraient des plus contraignantes. Il faut toujours accorder une marge de manœuvre aux établissements bancaires, hein, qui, rappelons-le, font pas n'importe quoi, regardent les revenus, les charges. Ce qui est vrai, c'est qu'entre un couple qui va gagner 3 000 euros avec deux enfants et un autre couple qui va gagner 6 000 et qui n'a pas d'enfants, il est bien évident que les charges ne sont pas les mêmes et que du coup l'endettement pourrait être apprécié un petit peu différemment. C'est un peu la position qu'avaient les banques précédemment, c'est-à-dire qu'elles regardaient le reste à vivre.
Et là, il y aura ce taux qui serait donc inscrit dans la loi avec à la clé des sanctions potentielles pour les banques. Vous le disiez, vous sentez déjà les banques plus frileuses, elles font déjà attention, elles appliquent déjà en partie ce taux ?
Bah, en fait, elles font déjà beaucoup plus attention, elles appliquent les règles et on leur a pas de recommandations, donc elles les appliquent globalement avec une possibilité de dérogation qui leur est accordé, donc il faudra voir dans quelle manière ça reste. Et puis ce qui est vrai, c'est que les banques aujourd'hui doivent en plus analyser les dossiers avec tout ce qui va autour de l'emploi et les risques liés à l'emploi, donc elles redoublent déjà de prudence. Et d'ailleurs, elles ont toujours été très prudentes, mais si vous voulez, il faut regarder où le secteur d'activité, la catégorie contrat vous avez, donc on rajoute des couches supplémentaires. Est-ce que c'était nécessaire ? Le marché fonctionne bien. Il faut rappeler qu'on a un taux de défaut sur le crédit immobilier qui est inférieur à 1%. On a en France un système extrêmement sécurisé à la fois pour l'emprunteur et la banque, puisqu'on a d'un côté une assurance emprunteur qui protège contre le décès, l'invalidité, l'incapacité de travailler, et de l'autre une garantie qui, en cas de défaut de paiement de l'emprunteur, protège la banque. Donc on a ce système qui n'existe nulle part ailleurs, et en plus, cerise sur le gâteau, si je peux m'exprimer ainsi, on emprunte en France à taux fixe, uniquement à taux fixe. Ce qui n'est pas le cas de nos amis autour. Par exemple, les Allemands, ils sont en ce qu'on appelle en semi-fixe. Donc, on a un système qui est déjà très, très protecteur, à la fois pour les banques, à la fois pour les emprunteurs. Des règles nouvelles qui ne se justifiaient pas parce qu'on avait déjà un système extrêmement prudent, extrêmement sécurisé, et que rajouter encore des règles comme si on faisait avant n'importe quoi, ça paraît effectivement un peu aujourd'hui surprenant.
Quels sont les clients qui vont le plus pâtir de ces règles très strictes ? Ce sont les clients les plus modestes, forcément, qui vont être impactés ?
Bah, forcément. Quand on vous dit vous ne pouvez pas dépasser 800 euros de revenus, par exemple, enfin 800 euros de remboursement, mais que vous avez très peu d'argent de côté à côté, bah, on vous allait dire bah, tant pis, je ne pourrais pas acheter ou je vais acheter plus petit. Donc c'est évidemment les plus jeunes, ceux qui n'ont pas d'apport ou d'épargne. C'est également ceux qui ont un pépin de santé parce que l'assurance leur coûte beaucoup plus cher. Donc il va falloir, entre quelqu'un qui est en très bonne santé, qui va payer 40 euros d'assurance par mois, quelqu'un qui va payer 120 euros d'assurance, bah, vous voyez bien qu'il ne pourra pas rentrer dans le même crédit. Donc c'est évidemment, j'ai envie de dire que les secondos accédants en très bonne santé et avec un matelas d'épargne, ceux-là pourront toujours acheter emprunter. Pour les autres, ça va évidemment être toujours un peu plus compliqué.
Si ça freine les achats des primo-accédants, est-ce que ce n'est pas aussi pour enrayer l'explosion des prix ? Est-ce que ce n'est pas ça aussi l'objectif du gouvernement ?
Alors, ça freine les primo-accédants et ça freine aussi des petits investisseurs locatifs qui, rappelons-le, souhaitent investir dans l'immobilier pour en général un complément de retraite et qui donc permettent aussi d'augmenter l'offre locative sur le marché. Or, si on freine également ces petits investisseurs, on va diminuer l'offre locative alors que d'autre côté, on empêche l'accession à la propriété. Donc, vous voyez un peu la pression sur l'offre locative. Enrayer la hausse des prix, si vous voulez, si vous avez des acheteurs qui restent, des acheteurs qui vendent un bien, ils vendent cher, ils achètent cher. Enfin, vous voyez, on ne sait pas comme ça. Et puis, la hausse des prix, elle est quand même assez, on va dire, elle a été plus ou moins forte cette année parce qu'il y a des villes qui ont eu des rattrapages liés à des changements de goût et de préférence des Français. Mais rappelons-le, 80% du territoire français a des prix de l'immobilier inférieurs à 3 000 euros du mètre carré.
Oui, des changements, des évolutions post-confinement avec cet attrait pour les villes moyennes qui est très net. La reprise est là en ce moment, le marché immobilier est à nouveau dynamique, c'est déconfiné, vous le constatez.
Écoutez, on a depuis un an et quelques mois, on a subi le coup d'arrêt en mars, on a eu un énorme rattrapage en juin 2020. Le marché cette année s'est pas réellement arrêté, il est resté très dynamique, il est à nouveau très dynamique. La pierre est la valeur refuge. Effectivement, les envies des Français peuvent avoir changé, ont un petit peu changé, mais plus que jamais, on a des acheteurs jeunes, motivés et qui évidemment ont vraiment envie d'investir dans la pierre parce que ça reste, voilà, tout bêtement, et que c'est une valeur refuge absolue.
Et tout cela arrive dans un contexte où les taux sont très bas, où il est devenu donc peu coûteux d'emprunter 19 milliards d'euros de crédit immobilier distribué au mois d'avril. Et donc des règles qui vont se durcir, on le disait. Merci pour ces éclaircissements ce matin sur Europe 1. Maël Bernier, porte-parole de meilleurtaux.com. Bonne journée à vous.
Merci.
Europe 1.
Il est 5h46. À suivre, la France bouge avec vous, les Nike Money. Où est-ce qu'on va ce matin?
À Pau, où on embauche des cracks du paintball pour calmer les ardeurs et la libido des messieurs papillons.
A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Il est 5h47 sur Europe 1. L'actualité, c'est cette importante opération de police hier soir à Marseille. La gare Saint-Charles restée bloquée plus d'une heure. Le passager d'un train en provenance de Nancy a été arrêté. Il pourrait avoir des intentions malveillantes, selon les mots de la préfète de police à Marseille. Un nouveau panneau solaire a installé et une sortie qui devrait durer au total 6 heures. Thomas Pesquet s'apprête à vivre aujourd'hui sa troisième sortie spatiale, la première de sa nouvelle mission à bord de la Station Spatiale Internationale. Le verdict attendu aujourd'hui dans le procès de Bruno Garcia devant les assises de Bastia. Il risque la perpétuité pour avoir abattu son ex-compagne il y a 2 ans. L'affaire avait eu un retentissement national entraînant le Grenelle des violences conjugales. Et puis, je vous rappelle cette victoire 1-0. La France a battu l'Allemagne hier pour son premier match de l'Euro. Les Bleus ont donc maintenant rendez-vous samedi avec la Hongrie qui a été battue hier soir par le Portugal 3-0.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Lénaïque Monnier pour La France bouge. Nous mettons chaque matin en avant des initiatives à travers la France et nous allons donc dans les Pyrénées-Atlantiques.
Oui, vous connaissez le paintball, cette espèce de fusil à lunettes qui envoie des balles de peinture. Eh bien, un pot, on s'en sert autrement que pour jouer au maître de guerre. On l'emploie pour sauver l'environnement et tout particulièrement pour empêcher les papillons de s'accoupler. Parce que qui dit papillon dit bébé, dit cocon, dit chenille. Et en l'occurrence, le problème, ce sont ces chenilles processionnaires. Elles détériorent les arbres et elles sont très urticantes pour l'homme et en particulier pour les animaux et les chiens.
Alors ça, on le sait. Comment on fait avec ces histoires
ça
de paintball? On tire sur les papillons, c'est violent comme méthode.
Je sais, c'est un peu radical. Alors on tire effectivement, pas avec des balles en caoutchouc ni de peinture. L'arme fatale, ce sont les phéromones. On propulse des capsules pleines de gel qui éclatent au sommet des arbres où se nichent les papillons. Les phéromones perturbent la libido du mâle qui ne ressent plus du tout le besoin de se trouver une compagne.
Et ça fonctionne?
Oui, ça fonctionne. L'utilisation des phéromones, c'est un procédé assez banal. Ce qui l'est moins, c'est l'emploi du paintball. Et d'après la municipalité de Pau, si l'on envoie 10 capsules sur un arbre, on a un taux de réussite de 80 à 90%. C'est plutôt pas mal pour une méthode qui est encore expérimentale, qui a un coût malgré tout 4 à 5 000 euros pour les 1 500 balles de phéromones qui seront nécessaires pour calmer ces messieurs papillons.
Voilà, ça se passe du côté de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques. Lénaïque Monnier, merci à vous. Il est 6h10 sur Europe 1. On va maintenant regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux et après le match d'hier, Martin Lange.
Bah oui, évidemment, hein, c'est
la victoire de l'équipe de France qui anime les réseaux sociaux. 1-0 contre son meilleur ennemi, l'Allemagne. Une belle entrée en matière pour les joueurs de Didier Deschamps qui a évidemment ravi les supporters, d'autant qu'ils ont pu pour la première fois depuis de longs mois profiter des bars et des terrasses jusqu'au bout, jusqu'au coup de sifflet final. Écoutez. C'était dans Paris hier soir.
Il y avait une ambiance de Coupe du Monde.
Exactement, à la sortie d'un bar, des terrasses bondées, parfois au détriment des gestes barrières, il faut le dire. Des cris de joie, des chants et même des coups de klaxon. À croire que les Bleus ont déjà gagné l'Euro. Ce que déplore un peu le journaliste Nicolas Xivmartov sur Twitter. Sérieusement, les gens klaxonnent pour une victoire en poule.
Oui, c'est 1-0. Qu'est-ce que ça va être en quart de finale, quoi.
Exactement, mais il suffit de voir les réponses sous son tweet pour comprendre que derrière cette victoire, les Français ont aussi célébré la vie qui reprend, le sentiment d'être enfin passé à autre chose. Il n'y a pas de petit bonheur après une aussi longue période de disette, écrit par exemple l'ancienne athlète Maryse Ewandje-Epe, ou quand Jean-Baptiste Guégan estime que ce pays a besoin de faire la fête, d'oublier l'épidémie et l'année galère qu'on vient de passer.
Ouais, avec en plus cette souplesse sur le couvre-feu qui a permis à tout le monde d'en profiter hier soir de la joie. Donc, des débats aussi sur le match lui-même, comme toujours sur les réseaux.
Évidemment, les 67 millions de sélectionneurs, comme on dit, se sont transformés en 67 millions de commentateurs, d'autant que le match a été riche en faits de jeu. Les Allemands qui avaient promis de jouer sale et qui n'ont pas menti, ces deux buts refusés pour hors-jeu et puis ce pénalty visiblement oublié sur Kylian Mbappé, sans oublier un temps additionnel à rallonge pour faire durer le plaisir. L'arbitre aura tout essayé, estime Sébastien. Après 156 minutes, la France l'emporte, l'arbitre a eu des crampes et n'a pas pu continuer, ironise Grégory Hacher, l'arbitre désigné homme le plus détesté de la soirée.
Ah oui, par Namasté,
à ce point-là exactement. Et écoutez, sa page Wikipédia a d'ailleurs été plusieurs fois modifiée durant le match. Né en Allemagne, clown professionnel, ne siffle jamais de pénalty. J'en passe et des meilleurs. Bon, on peut aussi retenir la belle performance des joueurs français, notamment celle de Paul Pogba, largement salué sur les réseaux sociaux.
Et salué dans la presse aussi ce matin, Paul Pogba, homme du match. Hier soir, on va y revenir sur cette rencontre et aussi sur ces questions d'arbitrage. Mais bon, on a gagné, on ne va pas épiloguer sur ces petites erreurs d'arbitrage. Mais on en parlera avec notre consultante Aline Rira, qui sera avec nous tout à l'heure à 6h40. C'était pour voir si vous suiviez. Martin Lange, 5h52, merci à vous. Et vous avez rendez-vous à 14h avec Christophe Ondelat sur Europe 1 pour Ondelat raconte l'histoire du jour, la disparition du curé de Châtenay. L'histoire extraordinaire d'un curé qui, au début du XXe siècle, disparaît en Eure-et-Loire. Dans cette affaire, vous allez voir que des mages hindous vont participer aux recherches. Ondelat raconte donc à 14h et dès maintenant en podcast sur Europe 1.fr.
Europe 1.
Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète à suivre, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
5h54 sur Europe 1. Notre planète avec Fanny Agostini. Et chaque matin, des solutions positives pour l'environnement. Ce matin, Fanny, une carte que vous nous conseillez, une carte en ligne, a été créée et elle permet de trouver ce qu'on appelle les ressourceries les plus proches de chez soi.
Le site du Réseau National des Ressourceries existe enfin. Rappelons déjà ce qu'est une ressourcerie. Il s'agit d'un lieu de collecte, de réemploi et de revente d'objets usagés ou défectueux. Vous pouvez en 30 secondes trouver l'endroit où l'on va pouvoir réparer votre bien, qu'il s'agisse de mobilier ou d'électroménager. Et mieux encore, si vous avez un petit peu de temps devant vous, on va vous apprendre comment le faire vous-même, histoire d'être autonome si une panne survient à nouveau. J'ai moi-même rapporté mon grille-pain récalcitrant citron un matin et je l'ai récupéré comme neuf l'après-midi, réparation et nettoyage compris. Autrement, si vous ne souhaitez pas garder l'objet en question, les ressourceries sont de formidables dépôts qui récupèrent tout, y compris le textile, des structures qui comportent aussi un aspect social puisqu'elles embauchent des travailleurs souvent en réinsertion professionnelle.
Et ces ressourceries connaissent un boom depuis quelques années.
En 2017, il y avait plus de 2400 ressourceries en France. Depuis, c'est vraiment l'explosion au point qu'il devient difficile de les répertorier tellement elles poussent partout, sur tout le territoire. Chaque mois, de nouvelles ressourceries naissent en France, d'où l'intérêt d'avoir un site qui les répertorie régulièrement et qui vous permet de les contacter. La région Auvergne-Rhône-Alpes étant celle où l'on en trouve le plus. Certaines proposent même de venir chez vous sur rendez-vous si vous souhaitez débarrasser votre grenier ou désencombrer votre maison et appartement.
Ça veut dire que ça sonne finalement la fin de ce qu'on appelle les encombrants, les objets dont on ne veut plus, qu'on va laisser sur le trottoir en attendant qu'ils soient récupérés.
Ce serait effectivement un grand pas que notre réflexe à tous soit d'apporter ce qui nous encombre dans les ressourceries proches de chez nous. Depuis leur création, ces ressourceries évitent que des tonnes d'objets partent à la benne. Rappelons qu'en France, 22 millions de tonnes de déchets finissent brûlées ou enterrées. Autre donnée importante, seulement 16% de la matière que l'on jette arrive dans la poubelle des recyclables. Les ressourceries sont aujourd'hui extrêmement complémentaires au triage des déchets qui est loin d'être la panacée.
Voilà, donc pour ce réflexe, donc le réseau national des ressourceries pour trouver un lieu proche de chez soi pour collecter, réparer un grille-pain, disait Fanny, ou revendre ces objets dont vous voulez vous débarrasser. Merci à vous, Fanny Agostini, 5h57.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs. Écoutez le monde changer.
Et je souhaite la bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1. Ravi de vous accompagner au réveil en ce mercredi 16 juin. Le 5-7 continue et le dicton a changé. Vous le connaissez, à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. Mais non, à la fin, c'est la France qui gagne.
Pour cette frappe irlandaise, et le but
contre son camp de l'Allemagne. Vous l'avez suivi en direct sur Europe 1 avec Jean-François Pérez, Cyril de la Morinerie. Entrée en matière réussie donc pour les Bleus dans l'Euro de foot. 1-0 contre l'Allemagne après un combat quand même. Hein. Dur, rugueux, Didier Deschamps, content.
Il y avait des moments où on a souffert, mais on a souffert ensemble. Donc bravo, tout n'est pas parfait, mais face à un tel adversaire, se retrouver à la fin du match avec 3 points, c'est une très bonne chose.
Bon, voilà, ça commence bien, mais est-ce de bon augure pour la suite? Est-ce que la recette est là pour aller au bout de cet euro? On va revenir sur ce match avec la consultante foot d'Europe 1. À 6h40, l'ancienne internationale Aline Riera nous rejoint en direct. Son regard sur cette équipe et sur la suite c'est la Hongrie et surtout le gros morceau, le Portugal. D'ici 7h, tous vos rendez-vous habituels, l'innovation du jour, la revue de presse internationale. Nous irons en Russie et aux États-Unis avant la rencontre attendue aujourd'hui entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Et puis un peu de musique. The wind et la guitare de Jimi Hendrix au Festival Pop de Monterey, juin 1967. Le premier événement musical à incarner la contre-culture naissante aux États-Unis avec une affiche de rêve, le récit avec Omblin Roche. Ce sera à 6h20. Laurent Cabrol, la météo est en train de basculer.
Oui. On plante le décor en ce moment même.
Planter le décor.
Je regardais les images satellites, on voit arriver sur le golfe de Gascogne de gros nuages d'orage, et on les voit pour l'instant s'installer sur mer, mais ils vont arriver et ils vont gagner l'Aquitaine et le Bordelais assez rapidement dans la matinée. Cet après-midi, nous retrouvons cette zone orageuse sur le Poitou-Charentes, la Vendée, surtout sur la Bretagne et la Normandie qui seront particulièrement touchées en fin d'après-midi ou en cours d'après-midi. Et puis ceux du matin qui étaient sur l'Aquitaine vont encore se renforcer. Vous voyez que la façade atlantique va vraiment trinquer, si vous me permettez l'expression. Et en grimpant dans le Val-de-Loire, tous ces orages vont encore envahir tout le Val-de-Loire en étant particulièrement puissants. Voilà toutes les régions qui sont en danger aujourd'hui. En danger orageux, bien sûr. Il ne faut jamais le prendre à la légère, ce danger. Des orages un peu plus isolés sur les Cévennes et les Alpes du Sud, mais là, on y est habitué depuis plusieurs jours. Donc, attention dans l'Ouest. Partout ailleurs, la chaleur est là, avec énormément de poussées chaleureuses, si je puis dire. 23 à Brest, là c'est supportable, 26 à Nice, ça va, 27 à Deauville, on y va, on respire, 29 à Toulon et Marseille, ça devient difficile, 30 à Lille, 31 à Langres, 33 à Dijon, Nantes, Colmar, Nancy, Vesoul, 34 à Bordeaux, Clermont-Ferrand, Nevers et Niort, et 35 à Paris et à Lyon. 35 à Paris, mes amis.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Allez, tout de suite, votre journal sur Europe 1. Bonjour Sophie Echen.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.